Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Sylvain Patou, merci d'être venu à la librairie Majolir, Bourgoin-Jallieu. C'est pas la première fois. Vous nous aviez annoncé quand vous êtes venu, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, le 16 novembre 2013, votre intention d'écrire un roman de pirate. Et le voilà. Et que celui qui a soif vienne, un roman de pirate qui est sorti en novembre 2015, qui pèse 470 pages. Effectivement, côté pirate, vous nous gâtez. Ça ferraille dur, on manipule le mousquet, le sabre, le bâton, on lâche, on pend en haut des mâts, au bout des vergues, on fait subir le supplice de l'estrapade. On démembre, on jette par-dessus bord, il y a des prisonniers dans les cales, les marins ne sont pas toujours dociles, les officiers sont souvent veules. Quand on descend à terre, on s'adonne à de joyeuses libations, il y a des bagarres, voilà. Très rapidement raconter une partie seulement de votre bouquin.
Alors déjà pour la régularité, c'est vrai que je viens à chaque fois un 16 novembre. J'aime bien quand c'est régulier. Mon fils est né le 15 avril et ma fille le 23 avril, donc à 3 ans d'intervalle aussi. Et sinon, alors pour passer à la plaisanterie, merci pour l'invitation et merci pour cette présentation. Et ça correspond bien en fait au projet. Donc quand j'étais venu en novembre 2013, ça faisait à peu près un mois que je travaillais sur ce roman, et j'ai mis 2 ans à l'écrire, donc c'est un travail de longue haleine. Et tout ce que vous avez dit, ça correspond à tout ce que je voulais mettre dans le roman, c'est-à-dire je voulais que ce soit vraiment un roman de pirate, c'est-à-dire vraiment un roman d'aventure, et je voulais pas faire un pastiche, ou je voulais pas me moquer du genre, mais prendre ce genre avec respect, l'assumer, parce que c'est un genre populaire, c'est un genre moi qui m'a accompagné quand j'étais petit. Voilà, donc ça c'était mon intention, c'était d'écrire un roman d'aventure, mais qui soit un roman résolument contemporain. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à l'écrire, donc en octobre 2013, c'était une période de ma vie assez difficile, puisque je venais de perdre ma maman en avril 2013. Et pendant l'été, j'avais essayé d'écrire quelque chose sur ma mère, sur sa maladie, parce qu'elle avait eu une longue maladie qui avait duré plusieurs années, qui était une maladie dans laquelle son corps se dégradait. Et je me suis dit que j'arrivais pas à le faire, c'était trop dur. C'est-à-dire que pour moi, écrire, j'ai besoin que ce soit une jubilation, un plaisir. Et ça remuait des choses trop tristes pour moi. Donc j'ai décidé de m'embarquer dans autre chose et de partir sur ces bateaux de papier, de m'embarquer au loin et d'aller vivre un peu des aventures de cap et d'épée pour un peu me changer les idées. Et puis finalement, en fait, cet aspect-là, ce que je voulais écrire sur la maladie de ma mère, c'est peu à peu revenu dans le processus d'écriture, parce que j'ai commencé à écrire mon livre en octobre 2013, mais en mars 2014, je me suis interrompu pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour écrire un autre livre qui s'appelle Beauté Parade, qui est sorti en janvier 2015, et en fait qui racontait l'histoire de la lutte de femmes sans papier dans un salon de beauté au métro Château d'Eau à Paris. Et quand j'ai écrit ce livre, en fait, je l'ai écrit parce qu'au début, j'y suis allé en tant que citoyen engagé, voir ces femmes qui étaient très courageuses, qui se mettaient en grève et tout ça. Vraiment, un aspect très intéressant, c'était la mondialisation en 50 mètres carrés. Et l'éditeur, quand j'ai écrit ce livre, c'était un livre où j'étais, me sentais un peu obligé de dire d'où je l'écrivais, parce que c'était mon quartier, c'était le quartier où j'habitais. C'était aussi pas évident en tant qu'homme blanc d'aller écrire sur des femmes qui étaient noires ou qui étaient chinoises et qui faisaient de la coiffure et de la manucure, c'était pas tellement des endroits où, c'était naturel pour moi d'aller. Donc je me suis un peu mis en scène dans ce livre, et notamment le thème de la beauté en fait me parlait, parce que ma mère était restée coquette jusqu'au bout malgré son corps qui se dégradait. Et là, de voir ces femmes qui allaient se faire coiffer, qui allaient se faire les ongles, ça leur coûtait très cher, et c'était des femmes des milieux populaires, ça m'a fait prendre conscience que le corps, la beauté, c'était pas quelque chose forcément de futile, mais c'était aussi une ressource, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait utiliser. Et ça faisait écho à ma mère qui était malade et qui était handicapée et qui voulait néanmoins rester belle. Donc j'ai mêlé à mon récit des éléments plus personnels, plus intimes, et ça a modifié ma manière d'écrire mon roman de pirate, parce que je me suis dit, mais après tout, j'ai fait ça pour Beauté Parade, parce que c'est Beauté Parade, c'est pas une fiction, c'est un récit, mais qui est documentaire, qui est pas une fiction, même si c'est littéraire. Et ben, j'ai eu envie de briser un peu les frontières entre le réel et puis la fiction. Et je me suis dit, après tout, quand j'écris une scène où il y a quelqu'un qui meurt, ben, je pense à ma mère. Quand j'écris une scène où il y a des moments joyeux, ben, je pense aussi à des gens de ma famille, à des choses de mon histoire. Et donc j'ai voulu mêler en fait à mes pirates, faire flotter sur les bateaux de mes pirates à la fois des personnages hauts en couleur de toutes origines et de tout type, et en même temps mes propres fantômes, que ce soit mes fantômes intimes, mes fantômes littéraires, parce qu'on entrevoit Manon Lescaut ou d'autres, et mes fantômes politiques, parce qu'on voit Spinoza, on voit Victor Serge, Louise Michel, même Jeanne d'Arc, voilà. Donc c'est des choses que je voulais entremêler dans ce livre.
Alors, on revient aux pirates, qui sont des fiefs et pilleurs, mais ils ont quelque chose de particulier, en tout cas dans votre livre, c'est qu'ils sont... Enfin, j'ai eu l'impression qu'ils s'en prenaient à l'ordre établi. C'est-à-dire qu'une fois leur forfait accompli, ils se partagent le butin, ils réunissent les officiers, ils les jugent, ils exécutent la sentence, pas toujours condamnation à mort. Ça de manière un petit peu systématique. Ce sont des gens qui, de toute évidence, n'aiment pas trop le commandement, les officiers.
C'est vrai que je me suis beaucoup documenté en fait pour ce livre, parce que l'idée n'est pas de faire un roman historique, mais de maîtriser suffisamment le cadre historique pour être capable de faire une place à la fantaisie. Et quand j'ai écrit mon roman, j'avais lu déjà les livres d'histoire, notamment de Marcus Rediker, qui est un historien américain qui est spécialiste des pirates. Et puis j'ai lu aussi le fameux livre de Defoe, l'histoire des plus fameux pirates, qu'il avait écrit en son temps. Ben, je me suis documenté, j'ai lu aussi des livres sur les navires négriers. Et donc tout ce que je dis sur l'aspect social des pirates, c'est quelque chose qu'on trouve dans les livres de Rediker. Il se situe un peu en tant qu'historien dans la lignée d'Hobsbawm. Hobsbawm, c'est un historien britannique qui avait travaillé sur le banditisme. Il avait travaillé un peu sur les Robins des Bois, si vous voulez, vous voyez, les Robins des Bois en Angleterre. Et il montrait qu'en fait, ce banditisme, si ça avait donné lieu à des mythologies comme Robin des Bois, en France on a Mandrin, on en a d'autres, si ça avait donné lieu à un tel engouement populaire, c'est parce que c'était des hommes et des femmes qui remettaient en cause l'ordre social, qui remettaient en cause l'ordre établi, et qui apparaissaient comme des gens qui défendaient le peuple face aux puissants. Et les pirates, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est à l'époque de la première mondialisation, avec des bateaux qui parcourent les mers et qui transportent des marchandises, qui transportent des êtres humains aussi, transformés en marchandises. Et c'est un moment où, en fait, le bateau de commerce, ou même le bateau militaire, c'est un peu l'ancêtre de l'usine, parce qu'il y a des cadences à respecter, il y a une hiérarchie, il y a une discipline très forte. Et la lutte des classes de ce moment-là, elle se passe en partie sur ces bateaux. Alors, elle ne se passe pas que là, mais en partie sur ces bateaux. Et donc les pirates, c'était des gens qui faisaient une sorte de contre-société, qui essayaient d'échapper à cette discipline qui était terrible, et qui avait un fonctionnement assez égalitaire. Bon, bien sûr, il y a un côté un peu romantique. Moi, je leur donne un aspect assez sympathique, pas toujours sympathique, mais quand même assez souvent sympathique à mes pirates. Ça peut être contesté, parce que c'était aussi des bandits, quand même. Il y avait cet aspect-là aussi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect de contre-société, le fait qu'ils élisaient leur chef, qu'ils pouvaient les révoquer, le fait qu'il y avait une sorte de salaire maximum. Par exemple, quand ils se partageaient un butin, le capitaine, il avait deux parts, mais le simple marin, il avait une part. Ça fait une différence de salaire de 1 à 2, si on veut parler en termes de salaire, donc même si c'est du butin, donc ça c'est bon, par rapport aux inégalités qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est très différent. C'était aussi une remise en cause des normes de genre, puisqu'il y avait des femmes pirates qui se battaient comme les hommes, qui étaient aussi courageuses que les hommes. Il y avait également des pirates noirs, il y avait des équipages de pirates qui étaient composés à moitié de noirs, à une époque aussi où on les mettait plutôt en esclavage. Donc tous ces aspects-là dans la piraterie m'intéressaient, et c'est vrai que le livre, c'est aussi un livre qui a une dimension d'utopie, une dimension politique, et voilà, donc je cherche pas à dire que les pirates c'était génial, mais la dimension sociale des pirates m'a intéressé, et la dimension de révolte aussi.
Alors, on va peut-être envisager... Pour commencer votre écriture, qui est lyrique, qui est pleine de fureur, d'humour, de tendresse, qui est même, il y a une séquence carrément cinématographique, quand vous décrivez le duel entre ce maître vitrier et le comte Barral, là, pour les yeux de la belle Manon. Vous aimez les énumérations, juste ce qu'il faut, quand elles enrichissent le récit, qu'elles lui donnent de la couleur. Il y a une chose qui est très frappante aussi, c'est que vous omettez souvent l'article défini ou indéfini, ce qui donne force à ce que vous voulez dire. Et parfois, m'a-t-il semblé, un petit côté désuet qui ajoute au dépaysement. De manière globale, enfin, ce qui m'a frappé à la première et à la deuxième lecture, c'est que vos phrases sont très construites, toujours fluides, mais travaillées, amples, qui s'accélère lorsque le rythme l'impose et qui sonne juste au point que je me suis demandé si vous ne les lisiez pas à voix haute. Pas toutes peut-être, parce que là ça en fait beaucoup, mais on a vraiment cette impression quand on vous lit.
Alors c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance au rythme, et en fait depuis que j'ai commencé à écrire, puisque quand j'étais venu, j'avais écrit 3 livres, et là j'en suis à 5, et puis il y a un 6e qui va sortir en février. Et en fait, c'est un peu comme la lecture. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup, mais je lisais ce qui m'intéressait dans les livres que je lisais, c'était l'histoire. Et je prêtais pas tellement attention à l'écriture. Et puis je me suis remis à lire à la fin de ma vingtaine, enfin au début de ma trentaine. C'est au moment où je me suis mis à écrire, je me suis remis à beaucoup lire. Et là, j'ai pris beaucoup plus d'intérêt à la langue, en fait, et à l'écriture. Et c'est un peu pareil, j'essaye de plus en plus de faire attention à la manière dont j'écris. Alors ça paraît une évidence, mais peut-être je pense que je le faisais au début mais sans m'en rendre compte, et maintenant c'est plus conscient, c'est plus déterminé, on va dire. Et ce livre, il est gros, c'est vrai, mais chaque phrase, je l'ai pensée, je l'ai réfléchie, je l'ai construite. Pour chaque phrase, je me disais, est-ce que c'est une phrase qui a du rythme, est-ce que c'est une phrase qui est belle, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux enlever ou des choses qu'il faudrait que je rajoute. Donc j'ai vraiment, vraiment fait très très attention, alors je sais pas si c'est le style ou je sais pas, mais à la manière dont j'écrivais, à la langue que j'utilisais, beaucoup plus que pour mes livres précédents, et je faisais attention au rythme, à la structure narrative aussi, parce que des fois, il y a des choses qui se jouent aussi là-dedans. Et alors comment j'ai travaillé? L'idée c'était de donner le sentiment au lecteur d'écrire un roman de pirate, donc je voulais qu'il y ait un côté désuet dans la manière d'écrire, de donner du rythme aussi, donc c'est pour ça qu'il y a des phrases longues. Moi je suis marqué par la lecture par exemple de quelqu'un comme Maïlys de Carangal, hein, qui a vraiment un souffle dans ce qu'elle écrit, mais aussi quelqu'un comme Olivia Rosenthal par exemple, parce qu'Olivia Rosenthal c'est des fois plus sec, plus simple en fait la manière dont elle écrit, mais c'est aussi assez frappant. Et je sais pas, peut-être que j'alterne un peu entre ces deux modèles, enfin, ce sont des modèles pour moi. Et donc, l'idée, c'était de donner l'impression au lecteur qu'il lisait un livre qui a un côté désuet, mais bien entendu, l'intérêt n'était pas d'écrire comme on écrivait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ça n'a pas d'intérêt de copier ou de faire la même chose. Mais il faut donner l'impression au lecteur que c'est un peu ça. Alors, comment j'ai fait? Je me suis plongé, par exemple, dans les mémoires de Jacques-Louis Ménétra. C'est un compagnon vitrier du XVIIIe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle Journal de ma vie, qui est intéressant parce que c'est un des rares témoignages qu'on a de quelqu'un des milieux populaires qui écrit sa biographie à cette époque-là. On en a beaucoup de nobles qui le font, mais quelqu'un des milieux populaires, c'est plus rare. Ce livre, donc Journal de ma vie, qui a été pas mal annoté et puis commenté par l'historien Daniel Roche, c'est un livre qui est truculent, avec un vocabulaire... Vraiment, moi je trouve ça assez beau. C'est aussi un livre où il y a une certaine malice, quelqu'un qui est très blagueur, Jacques-Louis Ménétra. Alors des fois c'est des blagues qui aujourd'hui paraissent assez horribles, mais pour l'époque, lui il considérait ça comme des blagues. Et j'ai lu ça, on peut le lire, vous pouvez le consulter sur internet, sur Gallica, c'est en libre accès. Et alors, c'est quelqu'un qui a été révolutionnaire, qui a été sans culotte en 1789. Il avait une cinquantaine d'années. C'est quelqu'un qui était très bagarreur dans sa jeunesse, comme il était compagnon, il a fait le tour de France, et il se battait pas mal. Et puis, il avait beaucoup d'aventures sexuelles. Il en parle, il y a au moins une soixantaine d'aventures sexuelles qui sont relatées dans le livre. Alors, je sais pas si c'est qu'il se vantait ou s'il a vraiment tout vécu, mais voilà. Donc, donc ce personnage-là, il y a d'ailleurs un de mes personnages qui s'appelle Jacques-Louis, qui lui fait directement référence. Ça m'a permis de nourrir ma langue de tournures de phrases ou de vocabulaire. Les lèvres chantournées, les lapins ferrés pour désigner les gardes, les tristapates pour désigner les soldats. Tout ça, c'est des mots que j'ai utilisés, que j'ai un peu pillés, un peu comme un contrebandier, quoi. Je m'en suis saisi pour les mettre dans mon roman. Également, une autre source d'inspiration, ça a été la Bible. Alors, ça peut paraître étrange et un peu presque contradictoire, mais j'ai beaucoup lu les évangiles, puis un peu l'Ancien Testament aussi pour écrire ce livre. Bon, moi, je suis pas croyant, mais j'ai pas eu tellement d'éducation religieuse, mais je trouve qu'il y a, il y a une certaine beauté, quoi, dans le texte de la Bible, d'un point de vue littéraire, hein, après, d'un point de vue religieux, chacun peut y prendre ce qu'il a envie et y croire ou pas, mais moi, d'un point de vue littéraire, je trouve que c'est assez beau. Donc ça aussi, ça m'a alors inspiré.
On était parti pour effacer la mer, cette mer qui nous tient dans ce monde effondré, mais ne sais pas très bien jusqu'où devrons aller. Je ne sais pas très bien, et qui d'autre le sait. Et je suis tout cela et je suis seul au monde. Je la vois encore dans sa robe l'été, mais c'est déjà très bien qu'il faudra l'oublier. Je sais déjà très bien, pour tout être oublié. Qu'il repose en rêvant, qu'il repose en rêvant. Il repose en révolte. Nous brûlerons nos doigts jusqu'à nous disparaître. Disparaîtront peut-être, vous faites tout pour ça. Traverseront vos villes en fantômes parfois. Traverseront vos villes. Qui d'autre nous voit? On était parti pour effacer la mer, mais des mers, tu sais, il en restait beaucoup. Celui-là nous repousse et ses chiens à notre housse. Celui-là nous repousse et ses chiens à notre housse. Il repose en révolte, qu'il repose en révolte, qu'il repose en révolte.
Couleur FM 97.1. Orso Jessenka est un ami de notre auteur. Chanteur, musicien, compositeur, il relie tous ses livres au fur et à mesure qu'il les écrit. Il a poussé Sylvain Patieu à faire des lectures musicales. Cette chanson, « Effacer la mer » que nous venons d'entendre, lui a été inspirée par le philosophe corse et marxiste Jean Toussaint de Santy. Il est question d'insularité, comme dans le livre de Sylvain.
Précisément, si vous permettez, il y a... Oui, il y a une présence du religieux, on va dire ça comme ça, tout au long du roman, qui est très très impressionnante. Et il y a deux personnages particulièrement, le Ferracciolo,
voilà, le prêcheur.
Le prêcheur, qui est un moine défroqué. Mm-hmm. On ne sait pas de quel ordre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors il est quand même assez fortiche, parce qu'il signe un certain nombre de prophètes, pas tous également connus. Il y a Amos, il y a Jérémie, il y a Agé. Il cite Saint-Marc, Il aime beaucoup François d'Assise.
Oui.
Et puis de temps en temps, il a des visions. Il pense que c'est la Vierge Marie qui est nue. À la fin, il se demande quand même si ce ne serait pas plutôt Catherine de Sienne. Mais bon, il connaît tout ça. Et puis, il y a le pasteur. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les discours qu'ils tiennent l'un et l'autre sont quasiment les mêmes. Enfin, ils se rejoignent. Il y a un troisième personnage qui est français et qui, lui, lit le Coran.
Ah oui, il y a un Mahométan.
Il vient du Languedoc.
Oui, alors
donc il y a vraiment le religieux d'une manière très importante.
Parce qu'il y avait, des pirates aussi en Méditerranée, et il y avait la fameuse thématique des chrétiens qui étaient pris par les barbaresques et qui étaient parfois convertis à l'islam. Donc j'ai imaginé un pirate qui aurait eu cette histoire-là. Mais il y a un quatrième personnage aussi qui parle pas mal de religion, c'est Arienne.
Oui. Il est mandaté par le Christ pour faire régner sa volonté sur terre. Oui,
c'est un personnage plutôt négatif, lui.
Finalement.
Et en fait, voilà, l'idée c'était de présenter un peu ça, l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans la religion, la manière pluriel de faire parler les textes religieux. Et donc il y en a qui font parler ces textes, il y a plusieurs personnages dans mon roman qui font parler ces textes vers une émancipation, aussi parce que c'était un horizon indépassable de cette époque, la religion. D'ailleurs, il y avait beaucoup de mouvements de révolte qui étaient des mouvements religieux au départ. Par exemple, si on pense en Allemagne au moment de la naissance du protestantisme, ou même avant, il y avait des sectes, bon, les anabaptistes par exemple, mais il y en avait d'autres, qui étaient des sectes religieuses, mais en même temps avec une volonté de révolte sociale. Et puis, donc, il y a ce côté un peu émancipateur de la religion, chez les cathares aussi, sans vouloir les mythifier non plus, mais il pouvait y avoir aussi ce côté-là un petit peu. Et puis il y a aussi un côté, parfois très au contraire, de légitimation du pouvoir et des pouvoirs établis dans la religion. Donc j'ai voulu que les deux apparaissent dans le livre et ne pas trancher entre les deux, parce que les deux existent. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut parler un langage d'émancipation sans que ça passe par la religion, tant mieux d'ailleurs. À cette époque-là, il me semble que ça passait pas mal par la
Alors,
religion.
Alors vous êtes allé dénicher des saints dont on ne connaît même pas le nom, hein. Angélique de Marciano, Lucien d'Antioche... Alors, c'est la plus belle, Eustochia Smeralda Calafato, Nazaire de Milan, il y a même des Français, Clément de Metz, Enimi ou bien Saint-Dié. Où est-ce que vous y avez trouvé?
Chez moi, j'ai un livre des saints, que j'aime bien les saints parce que ça renvoie un peu à une piété populaire. Ma grand-mère, par exemple, elle n'aimait pas l'église, mais elle avait une petite statue phosphorescente de la Vierge dans sa chambre. Et voilà, elle avait un peu cette piété populaire et elle aimait beaucoup Saint-François d'Assise. Et c'est vrai que les saints, ils sont plus humains, je trouve, que des fois que les dieux, parce que ils ont eu une vie humaine. Donc, ce que j'aime bien aussi avec les saints, c'est qu'ils se rattachent à des situations ou à des professions. D'une certaine manière, je trouve ça un peu amusant, les saints. C'est vrai que, en fait, moi, je suis assez curieux de nature, et du coup, je m'intéresse souvent à des trucs assez différents et qui peuvent paraître un peu hétéroclites. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis vraiment amusé à mettre des choses très personnelles, très hétéroclites dans le livre. Donc à un moment donné, il y a ces scènes. Mais c'est pas gratuit, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'écris, des fois, je me sens un peu comme en transe. Et donc à des moments, il y a des pensées qui arrivent, qui percutent ma narration, et qui sont pas des pensées parasites, parce que pour moi, ça fait sens, et j'estime que pour le lecteur, ça peut faire sens aussi. Mais c'est un peu étrange, c'est un peu hybride. C'est le cas quand je fais des énumérations, par exemple. À un moment donné, il y a une charge héroïque de certains soldats sur le bateau, et ça me fait penser à Alexandre à la bataille de Gaugamélès, et puis ça me fait aussi penser à John Wayne dans un western, et puis ça me fait penser à une scène de Game of Thrones, la série Game of Thrones, et donc tout ça je le mets parce que je me dis, après tout, si ça fait sens, ça peut percuter à un moment donné l'imaginaire du lecteur. Et c'est mon imaginaire aussi qui se met là-dedans. Et j'aime bien cette idée de briser un peu les frontières, de briser la narration du roman.
Oui, en fait, première réaction, première lecture, on a l'impression que c'est des anachronismes. Alors en fait, pas du tout. C'est une manière d'anachronisme. Mais on se pose la question de savoir si vous les avez mis, c'est peut-être que vous voulez faire apparaître, mettre en valeur l'universalité de l'histoire.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ce que... J'aurais pas pu dire mieux, c'est ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que je mettais ces incises un peu particulières, alors j'essayais d'abord toujours que ça soit harmonieux avec le reste du texte, que ça fasse pas plaquer. Mais à chaque fois, je me demandais est-ce que ça va vers de l'universel ou pas, quoi. Et si ça allait pas vers de l'universel, si c'était une simple marotte personnelle, je l'enlevais.
Une question qui n'est pas une colle, mais quand vous évoquez le grand banditisme avec Antonio Ferrara, c'est universel?
Alors non, c'est pas universel, mais ce qui est universel, c'est le, la manière pour laquelle les bandits se font prendre. Et ils se font prendre parce qu'ils restent humains. C'est-à-dire qu'ils vont appeler un proche ou ils vont aller voir leur mère ou leur petite amie ou leurs enfants, et c'est comme ça qu'ils vont se faire attraper. Même si on n'est pas proche des bandits, même si on récuse le grand banditisme, c'est quand même quelque chose qui peut nous toucher.
Alors vous vous arrêtez aussi, ça c'est intéressant, sur une autre forme de piraterie, la piraterie aérienne, celle des années 70, des Black Panthers. Oui, et vous arrêtez, je n'ai pas compté, mais deux ou trois reprises, et assez longuement.
Alors c'est mon prochain livre justement, c'est une sorte de spin-off de ce livre des pirates. Comme dans les séries, quand il y a un personnage secondaire et puis qu'on lui donne, ils font une série particulière qui lui est dédiée. Donc là j'ai fait un peu pareil, c'est-à-dire que, en fait, la manière dont ces pirates sont apparus, c'est un peu particulier. Moi, ma spécialité en histoire, parce que je suis historien, c'est de travailler sur l'histoire des populations noires en France. Et je travaille notamment avec un historien américain, afro-américain, qui s'appelle Tyler Stovall. Qui d'ailleurs, le pauvre, est assez désespéré depuis la semaine dernière et depuis l'élection de Trump. Et donc cet historien, en fait, lui, il est spécialiste de la France. Il y a beaucoup d'historiens américains qui sont spécialistes de la France. Et on organise un séminaire, on avait fait un colloque à Berkeley, tout ça. Un jour, il venait à Paris parce qu'on l'avait invité dans notre séminaire. Il me dit, écoute, si ça t'intéresse, il y a une cérémonie en l'hommage de Jean McNear, qui était une amie à moi, que je connaissais quand j'étais étudiant à Paris au début des années 80. Et voilà, il y aura son mari qui sera là, Melvin McNear. Et il me dit, tu sais, c'était des sympathisants des Black Panthers et ils ont détourné un avion en 1972. Pareil, extraordinaire comme histoire, je me suis renseigné là-dessus. Et en fait, ils ont détourné un avion en 72 avec leurs enfants, avec leurs deux enfants, avec trois autres amis à eux. Et donc, ils étaient cinq adultes et trois enfants en tout à détourner cet avion. Alors, bien sûr, les enfants étaient passifs, hein, ils n'ont pas pris d'armes. Et ils ont détourné cet avion vers l'Algérie. Ils ont réussi à obtenir une rançon $1 million. Lui, Melvin McNear, était déserteur de l'armée américaine parce qu'il ne voulait pas aller combattre au Vietnam. Les deux autres hommes qui avaient détourné l'avion étaient évadés de prison. Et les deux femmes, elles les accompagnaient. Ils voulaient partir, ils voulaient quitter les États-Unis parce qu'ils en avaient marre du racisme. Et ils sont allés en Algérie parce qu'ils avaient l'impression que l'Algérie, c'était la nation qui avait vaincu la colonisation, un pays d'émancipation. Ils ont été très déçus en arrivant, ils ont été très mal accueillis par les quelques Black Panthers qui vivaient là-bas. L'État algérien a récupéré leur rançon et l'a rendu aux États-Unis. Et finalement, ils ont dû renvoyer leurs enfants aux États-Unis. Donc ils étaient tristes parce qu'ils quittaient les États-Unis pour fuir le racisme, et ils ont dû renvoyer leurs enfants là-bas. Et finalement, ils sont passés clandestinement en France. C'est le réseau de Curiel, donc, qui était un juif communiste, qui les a fait passer en France. Ils ont resté clandestinement en France quelques années. Et en 76, la DST les a arrêtés. Ils ont été jugés en 78, mais la France a refusé de les extrader. Les femmes ont passé 2 ans en prison, les hommes 4 ans. Et puis, ils se sont posés la question, savoir ce qu'ils allaient faire quand ils ont été libérés. Ils ont récupéré leurs enfants. Et ils sont allés s'installer dans la banlieue de Caen, dans un quartier qui s'appelle la Grâce de Dieu, où ils sont devenus travailleurs sociaux, où ils ont fait beaucoup de bien autour d'eux, en fait. Et donc ça m'intéressait, cette histoire, parce qu'il y a plusieurs idées qui m'intéressaient. D'abord, ce parcours qui est assez étonnant. Ensuite, cette idée un peu de rédemption. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait un acte aussi grave que détourner un avion? Comment des personnes peuvent faire dans leur vie un acte qui empêche tout retour en arrière? Ils n'ont jamais pu retourner aux États-Unis. Aussi l'idée de deuxième chance. Qu'est-ce qu'on fait quand on parvient à avoir une deuxième chance? Parce que le fait qu'ils aient été en France et non pas aux États-Unis, ça leur a permis de reconstruire leur vie, de recommencer. Donc j'avais fait de ce livre un texte qui est paru dans l'Humanité à l'été 2015. Et c'est un texte de commande. Il fallait faire un texte sur lire le pays et raconter, donc faire des portraits de gens qui vivent en France, de Français ou de personnes étrangères qui vivent en France. Et j'ai eu envie de raconter leur histoire, parce que pour moi, ça fait partie de l'histoire de la France aussi. Et j'étais en train de finir mon roman de pirate, et je me suis dit, mais c'est quand même fou, j'écris un roman de pirate, et je travaille en même temps sur des pirates de l'air. Il faut que je les mette, parce que ces pirates de l'air, finalement, ben, c'est un peu les correspondants Black Panthers, et dans les années 70, de mes pirates sur mes bateaux. Et puis, moi j'ai deux éditeurs, au Rouergue, je fais mes romans, et aux éditions Plein Jour, je fais mes documentaires littéraires. Et ils m'ont dit, écoute Sylvain, on lance une nouvelle collection, on peut parler de gens étonnants, est-ce que tu serais d'accord de faire un livre sur ce couple, sur Jean et Melvin McNair? Et donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc là j'ai rendu le manuscrit cette semaine et ça sort en février 2017. Et voilà, et donc pour moi ça faisait sens, en parlant des pirates, de rappeler cette histoire-là, qui est une histoire étonnante du temps où les pirates de l'air ne précipitaient pas les avions contre des tours jumelles, et du temps où en fait c'était assez facile de détourner un avion parce qu'il n'y avait aucun contrôle dans les aéroports, il n'y avait pas de sécurité. En fait, les compagnies aériennes disaient, bon, il peut y avoir quelques détournements, c'est pas trop grave, ça nous coûte moins cher que de mettre de la sécurité dans chaque aéroport. Et comme il n'y avait pas vraiment mort d'homme, ben, à l'époque ça gênait moins.
Alors, ce bouquin, c'est une superbe galerie de portraits. On ne peut pas tous les évoquer parce qu'ils sont trop fouillés. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quasiment tous, on les voit tout au long du roman.
Oui,
et ça, c'est très fort parce que voilà, on se familiarise avec eux. Il y a deux ou trois personnages qu'on peut évoquer, peut-être ces gamins, peut-être le premier. Oui, c'est le premier aussi dans le livre. Lui, il a 13 ans. On lui fait effectuer les tâches les plus ingrates sur le bateau pendant le jour. Et puis, la nuit, ce sont les hommes, les marins qui se le disputent. C'est un personnage que vous aimez beaucoup.
Oui, j'aime
beaucoup. Et qui va rencontrer son équivalente, si je puis dire. Et il y a une histoire qui va mûrir. C'est une très belle histoire.
Avec une jeune esclave, ouais.
Voilà.
Parce que oui, alors lui, c'est un personnage du mousse. Hein.
Oui.
Là aussi, c'est un peu un classique dans les romans qui se passent sur le bateau. Et on sait bien que le mousse, c'est souvent le souffre-douleur, celui qui est exploité par les marins plus âgés. Et voilà, donc, c'est un personnage qui est un peu dur, un peu naïf. Alors au début, je l'avais fait un peu trop gentil. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, tu sais, qui avait un peu relu, qui m'a dit, tu sais... ton personnage de mousse, il est trop gentil. Quelqu'un qui est orphelin, qui a vécu dans la rue comme ça et tout, il doit être plus dur que ça. Donc j'ai renforcé ce côté dur, mais en même temps, je voulais un personnage qui soit un peu porteur d'espoir quand même. C'est un peu sa fonction dans le livre.
Et puis César, le guerrier noir qui fait prisonnier, qui découvre l'esclavage. Et puis ce qui est très fort, là, vous faites bien sentir, il devient nègre. Par le regard qu'ont sur lui les marchands et puis ensuite les marins.
C'est ça, ouais. Donc oui, lui, c'est un personnage d'esclave. Et là aussi, parce qu'en fait, il y a trois navires au début de mon roman. Il y a un navire négrier, un navire qui est un navire de commerce, en fait, d'une compagnie néerlandaise, et puis un navire français qui transporte des colons vers le Nouveau Monde. Et donc, chacun des navires, il y a beaucoup de personnages sur chacun des navires. Et ça commence par les trois histoires parallèles de chacun des navires. Donc, on commence avec un navire, ça s'arrête un peu brutalement. On passe à un deuxième navire, ça s'arrête. Et puis un troisième navire. Et on retrouve tous ces personnages dans la deuxième partie du livre. Et peut-être que c'est un peu frustrant au départ pour le lecteur, parce que c'est presque trois histoires. Ça aurait pu être presque trois romans différents. Et donc, vous êtes embarqué dans une histoire, vous êtes embarqué sur un bateau. Puis d'un coup, vous êtes transporté sur un deuxième. Et donc, vous passez de gamin et César à Jacques-Louis, et puis après de Jacques-Louis à Carl Katharina. Et voilà, donc, c'est... Mais je vous promets, on retrouve ces personnages après dans la deuxième partie.
Oui, je confirme.
Every voice and sing till earth and heaven ring with the harmonies of liberty. Let our the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought.
Toujours sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre par Kim Weston, chanteuse estampillée Mouton, Lift Every Voice and Sing, l'hymne des Noirs chanté dans les années 70. Cette chanson fait référence aux esclaves et aux pirates de l'air évoqués dans le roman de Sylvain Patieux. C'est aussi le sujet de son prochain livre. Nous avons arpenté un chemin caoutchouc qui sort en février prochain chez Plein Jour.
Alors, bon, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a Baruch, bien sûr, c'est Spinoza.
Oui.
Et quelle idée de mettre Spinoza, là, au milieu de ses marins
Alors, bah, j'aime beaucoup Spinoza. Alors, j'ai fait des études. Bon, je ne suis pas très calé en philosophie, mais j'ai fait des études après mon bac. J'ai fait un bac S et puis j'ai été un peu vacciné contre les maths et la physique. Et je suis parti, je me suis échappé pour aller en faire une hypocagne, en fait. Alors ça me paraît bizarre parce que souvent pour les gens la classe prépa c'est la prison, mais pour moi ça a été un peu une libération. Et quand j'étais en classe prépa, j'avais un prof de philo qui s'appelait Monsieur Lacroix, malheureusement qui est mort, et qui était formidable. Et il était, c'était un normalien qui était marxiste, qui avait été membre du Parti communiste et tout ça, et il avait une filiation, disons une lignée philosophique qui était très claire. C'était Démocrite. Démocrite, Spinoza, Hegel, Marx. Voilà. Et, quand on a 18-19 ans, bah, moi, ça a contribué à forger ma pensée philosophique qui s'est limitée à ça, parce qu'après, j'ai plus beaucoup fait de philosophie une fois que j'étais plus en classe préparatoire. Et en fait, j'ai découvert aussi Spinoza, et j'ai beaucoup aimé Spinoza parce que ça me semblait être un philosophe qui rend heureux, quoi. Et puis il a une histoire aussi particulière parce qu'il faisait, il était dans une famille de juifs chassés d'Espagne ou du Portugal, je sais plus, qui avait été chassés par les rois catholiques. Donc il s'était retrouvé à Amsterdam dans une communauté juive qui avait gardé ses traditions, et il s'était retrouvé excommunié parce qu'il était pensé trop librement pour sa communauté. Et donc j'aimais bien ce personnage qui est un double paria en quelque sorte. Et je me suis dit, voilà, j'ai un de mes personnages qui va s'appeler Baruch, qui va avoir un côté un peu philosophe, mais qui va être comme un Spinoza, qui ne se serait pas tourné vers la philosophie, mais qui se serait tourné vers la bagarre et vers la flibuste et vers la guerre. Donc voilà, c'est ce personnage-là qui en même temps est très beau, mais qui est aussi un philosophe qui manie les idées et qui est aussi un séducteur dans le roman.
Alors vous allez nous parler du capitaine Karl, bien sûr, qui est un personnage extraordinaire, haut en couleur, etc., puis qui a une destinée quand même singulière.
Voilà, donc lui, c'est un personnage un peu queer, une ambiguïté sexuelle autour de lui, puisque au début du livre, c'est un homme, c'est un soldat, très estimé par ses camarades, et puis on se rend compte assez vite, donc je tue pas le suspense en vous le disant, qu'en fait, c'est un homme, mais c'est une femme déguisée en homme. Et ça a vraiment existé à l'époque moderne, hein. Il y avait des femmes qui s'habillaient en hommes, qui devenaient soldats, et c'était une manière pour elles d'échapper à leur condition de femmes, à la condition à laquelle elles étaient vouées, et puis de vivre une vie d'aventure. Et voilà, donc ça rejoint à la fois ces personnages-là historiques qui ont vraiment existé, et puis ça me permet de mettre en place aussi des femmes pirates, parce qu'il y avait des femmes pirates, donc elle devient... Karl Katharina devient capitaine, d'abord capitaine de soldats, et ensuite capitaine de pirates. Et j'aime bien cette idée aussi d'identité un peu volatile, du fait qu'on puisse être une femme qui s'habille en homme, et puis qui ensuite, quand son identité de femme est révélée, eh bien, elle reste quand même habillée en homme. Elle cache plus qu'elle est une femme, mais c'est une femme habillée en homme. J'avais envie de faire ce personnage-là un peu queer, parce que voilà, les normes de genre étaient aussi bousculées par les pirates. Puis on rejoint une des héroïnes de mon panthéon personnel, qui est Jeanne d'Arc. Elle aussi, encore une femme qui s'habillait en homme et qui a été brûlée pour ça à son époque. Et là aussi, une femme qui transgressait toutes les normes de l'époque, puisque c'était une paysanne qui parlait d'égal à égal avec des aristocrates, une femme qui combattait et qui s'habillait comme un homme. Donc voilà, j'aimais bien tisser aussi ces parallèles. Et puis j'ai lu dernièrement un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un photographe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a fait un livre qui s'appelle... je crois que c'est Mon neveu s'appelle Jeanne. Et en fait, il photographe, et il avait un neveu qu'il a commencé à photographier quand il était adolescent, parce qu'il aimait bien ce neveu. C'était un neveu qui était plein de vie. Et au départ, il faisait des photos comme ça, un peu des photos de famille. Et puis, ce neveu a fait l'armée, est devenu chauffeur routier. Et puis, il a eu une femme, des enfants, et puis il a commencé à se travestir, à s'habiller en femme. Et finalement, il a vécu une partie de sa vie habillé en femme. Il prenait même des hormones pour avoir des seins et tout ça. Et il a hésité à se faire opérer, et puis à la fin de sa vie, il est redevenu homme. Et j'aimais bien cette histoire parce qu'en fait, c'était assez simple. C'est-à-dire que c'était pas un intellectuel, c'était pas quelqu'un qui se posait des questions. À des moments, il avait envie d'être en homme, des moments, il avait envie d'être en femme. Et voilà, alors j'imagine que c'était pas si facile que ça au quotidien. Mais du coup, ce livre en photo, ce livre de ce photographe qui a beaucoup d'affection pour lui parce que c'est son neveu. Donc mon neveu s'appelle Jeanne, je crois que c'est ça le titre. Et ben c'est un livre que j'ai trouvé très beau. Et puis voilà, ben, Carl Katharina, c'est un peu ça quoi, dans le livre.
Et puis c'est pas fréquent que dans un roman de pirate, on ait comme personnage quand même important un couple homosexuel et puis un trio amoureux. Alors le trio amoureux, ce qui est quand même assez amusant, donc Manon qui est amoureuse du capitaine K quand et du capitaine Calico qui lui est un homme. Alors ce trio, il est béni par le révérend Défroqué et par le pasteur.
Oui, alors là aussi c'était pour aborder c'est abordé de manière assez succincte, mais le côté un peu libre qu'il pouvait y avoir chez les pirates, et puis qui commence à y avoir aussi à cette époque-là avec le libertinage et tout ça. Et Manon, c'est un personnage inspiré par Manon Lescaut, parce que là encore, c'est une lecture de quand j'étais jeune qui m'a beaucoup marqué. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, j'ai beaucoup aimé ce livre où on voit Manon qui cherche à échapper au chevalier des Grieux pendant tout le roman. Et je me suis dit, tiens, imaginons, parce qu'à un moment, Manon, elle est déportée dans le Nouveau Monde, parce qu'elle est considérée comme une prostituée. Je me disais, si Manon avait réussi à échapper à son sort, si elle avait échappé au Nouveau Monde, et si elle avait été arraisonnée par un bateau de pirates, qu'est-ce qu'elle serait devenue? C'est ça que je mets dans le livre. Ce que je trouve intéressant, en fait, avec le roman, c'est qu'on peut brasser plein d'idées philosophiques, plein de théories. On les brasse en les mettant dans les personnages, eh bien, on donne une complexité, on donne un côté pas manichéen et pas caricatural que j'aime bien. C'est ce que disait Lénine en citant Goethe. Il disait « La théorie est grise, mais toujours l'arbre de la vie reverdira ». Et c'est un peu ça que j'essaie de mettre dans mes romans, de mettre de la vie en mettant des personnages, en mettant des histoires individuelles qui font que ça échappe à la théorie et ça échappe au destin figé.
Et donc, vous comparez César à Lénine?
À un moment, oui. Ouais. C'est, à cause du kairos.
Oui. Alors, le kairos, c'est quoi?
Pour les Grecs, les philosophes grecs, c'était le moment opportun, le moment qu'il fallait savoir saisir. Donc, il y a une idée un peu politique, l'idée que les hommes peuvent faire leur histoire à certains moments. Et donc, c'est quelque chose que... c'est une chose à laquelle Lénine avait pensé au moment de la Révolution russe. Je suis pas en train de faire l'apologie de Lénine, hein, il y a des critiques à faire aussi sur Lénine, mais c'est vrai que j'avais lu notamment L'État et la Révolution quand j'étais plus jeune, et j'avais trouvé ça vraiment intéressant.
Il y a un moment...
peu passé de mode peut-être, pardon. Lénine, mais moi j'aime bien.
Il y a un moment très troublant, c'est celui où César qui a débarqué avec sa troupe d'esclaves qui se sont libérés, donc il débarque sur une île et il tue les habitants de l'île. Et ce qui m'a troublé, c'est qu'il le fait avec d'autant plus de fureur qu'il se rend compte en les tuant que ça le ramène à son propre destin. Et il va jusqu'au bout.
Alors ça, c'est aussi l'idée des contradictions qu'il peut y avoir dans les chemins vers l'émancipation. Par exemple, ça m'avait frappé le fait que les communards qui avaient été exilés, enfin déportés même en Nouvelle-Calédonie, une partie de ces communards, alors pas Louise Michel, mais beaucoup d'autres, avait combattu les Kanaks quand ils s'étaient révoltés. Et cet aspect-là, ouais, des chemins émancipateurs, enfin le fait que même des gens qui étaient des révolutionnaires et qui avaient voulu émanciper les milieux populaires en France, ils étaient capables de réprimer, quand c'était dans un autre pays, des peuples coloniaux. Et puis bon, puisqu'on parlait de Lénine, on pourrait parler aussi de certaines politiques de Lénine qui a aussi pas hésité à réprimer parfois... les marraines crotutates, alors tout ça, ça se discute, mais voilà, ça m'intéressait d'introduire des ambiguïtés aussi. Et puis il y a des personnages, personnages de Carl Katharina ou le personnage de Calico, en fait, c'est des personnages qui sont animés par l'esprit de combat, en fait, et qui sont pas des personnages qui peuvent vraiment s'opposer, qui ont du mal à arrêter la lutte à un moment et à se dire on va construire quelque chose.
Il y a une une société qui joue un rôle très important, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Je me suis demandé en vous lisant si c'était pas pour vous la première multinationale.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. D'ailleurs, c'est les premières compagnies capitalistes qui naissent à cette époque-là et qui font du commerce, qui font du profit. Alors, Max Weber avait parlé de l'esprit du capitalisme en disant que, en le mettant en lien avec l'esprit du protestantisme, l'idée d'être élu et de manifester la richesse, manifester par sa richesse qu'on est élu. Bon, je ne sais pas si c'est très valable d'un point de vue historique, mais quelque chose sur lequel j'ai joué dans le livre.
Finalement, est-ce que ce livre, qui, bon, roman de pirate, c'est le sous-titre, ça ne serait pas un livre sur le pouvoir ?
Oui, d'une certaine manière. Hein, ça, alors, je dirais plus peut-être sur les manières de prendre le pouvoir ou de changer le pouvoir, ou des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Comment on fait pour changer le monde, en fait ? Comment on fait pour le transformer ? Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir ou est-ce qu'il faut le laisser à ceux qui l'ont et construire une société parallèle ? On voit, par exemple, c'est une tentation qu'il peut y avoir chez les gens qui font les zadistes qu'il peut y avoir à Notre-Dame-des-Landes ou des choses comme ça. Moi, j'ai pas de réponse très précise à donner, mais c'est une interrogation qui existe et que je voulais un peu manifester aussi dans le livre, à travers les voies et les chemins que prennent ces pirates.
Quand même, quand ils abordent l'île, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est une constitution. Alors, ils commencent par rejeter la monarchie, c'est-à-dire le pouvoir aux mains d'un seul. Ensuite, ils élaborent leur constitution. Alors, il y en a qui partent, il y en a qui veulent continuer à écumer les mers. Et puis, il y en a un qui redoute que des pirates qui se posent deviennent des hommes, je vous cite, qui dominent. Tous les empires ayant commencé simples villages, campements de tentes et peaux de bêtes, de Babylone à Madrid, la preuve est en Rome, ses limites tracées à l'arrière par Romulus, fragile sillon franchi d'un pas moqueur par Rémus.
Bah oui, on a connu des cas de pirates qui sont devenus des grands propriétaires terriens, même des esclavagistes en Amérique du Nord. Et c'est toujours la question de savoir quand est-ce qu'il faut continuer à se battre et quand est-ce qu'il faut se poser. Et bon, il n'y a pas de. S'il y avait une réponse simple, on le saurait, quoi. Donc là aussi, c'est. Le roman permet d'explorer des possibilités, de poser des questions, et puis après, c'est aussi au lecteur de réfléchir à tout ça.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix. En vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec l'isou blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Couleur FM 97.1. Colette Magny, bien sûr, qui chante Les Tuileries sur un texte de Victor Hugo. Chanson qui reflète, selon Sylvain Patieu, un certain esprit pirate. Orso G5K en a fait une reprise pour les spectacles musicaux qu'il propose avec le romancier.
Comment vous avez travaillé? Parce que à la fin, il y a un certain nombre de pages plutôt conséquentes avec vos remerciements. Comment vous avez fait pour travailler la documentation, pour la digérer? Est-ce que tout le travail, vous l'avez fait avant ou est-ce que vous avez fait ça au fur et à mesure? Par exemple, toujours dans cette île, hein, à la fin, vous avez trouvé des fleurs et des aigres cises touffues, des chardons cul de curé. Vous avez trouvé ça où?
Ça, j'ai inventé.
Ah, mais alors j'ai cherché, mais bon, ouais,
je me suis inspiré de Volodine, Antoine Volodine. D'accord. Parce que moi, j'aime bien aussi le livre d'Antoine Volodine. Mmh. Et en fait, il invente vraiment un univers, un vocabulaire, une langue et tout. Et c'est un univers post-apocalyptique, assez terrible, assez oppressant. Et il invente notamment des végétations formidables qui, moi, me fascinent. Enfin, ça me fascine un peu les noms. Donc, c'était une sorte d'hommage à Volodine. Et sinon, je me suis documenté en lisant beaucoup de livres d'histoire, en lisant des mémoires de personnes de cette époque-là. Mais le terme que vous avez utilisé, c'est le bon, c'est digérer, c'est-à-dire que il faut pas que ça, si on veut pas que ça soit indigeste, si on veut pas que ce soit du recraché ou de la fiche de lecture, il faut vraiment prendre le temps que ça infuse en soi et bien connaître, et puis ensuite on arrive à s'évader de ses références, de ses propres références. Donc moi, je les mentionne par honnêteté, puis aussi parce que je me dis que le livre, ça peut être aussi une ouverture vers autre chose, que la personne qui aura lu mon livre, qui l'aura aimé, je lui indique mes sources et peut-être que ça peut lui donner des envies d'autres lectures, de creuser certains points, de se documenter, de voir. C'est une sorte de making-of comme dans les films. Quand vous achetez un DVD et qu'on vous met le making-of du film, on vous met des fois même les scènes coupées, les choses comme ça. Je sais pas, j'aime bien ce côté-là, je trouve ça intéressant. Et souvent, les auteurs de romans, ils font un peu comme ça devait rester mystérieux, comme ça devait rester un peu comme les cuisiniers qui veulent pas donner le secret de leurs ingrédients. Et moi, je trouve que, au contraire, c'est intéressant de montrer comment on fait, de montrer que c'est pas mystérieux, que c'est un travail d'écriture. C'est pas un don du ciel ou un génie incarné, quoi. C'est un travail, et après, on s'en sort de ce travail, on s'en sort par la fantaisie. Mais voilà, et puis souvent, c'est en étant très précis, en ayant beau travailler, qu'on est capable d'être bon après, quoi. Je vois, par exemple, quand je lis les livres de Maïs de Carangal, elle est très précise, par exemple, dans Réparer les vivants sur le vocabulaire du surf. Le vocabulaire de l'hôpital, tout ça, c'est des choses qu'elle décrit très bien. Et en même temps, elle est très précise, elle utilise des termes très précis. Et en même temps, elle s'en libère parce qu'elle a des phrases avec un rythme qui est le sien et qui lui est propre et qui n'a rien à voir avec les métiers concernés. Bon, donc j'ai essayé un peu de faire ça. Et puis, dire aussi d'où je tire mes sources, c'est aussi parler de mes influences littéraires. Moi, quand j'écris, j'ai besoin de lire aussi en même temps. Et quand je lis des livres que j'aime beaucoup, alors il y a certains auteurs, ça peut un peu les paralyser parce qu'ils se disent c'est tellement bien que j'arriverai jamais à la cheville. Mais moi, non, moi, au contraire, ça me motive, ça me donne du souffle. Quand je lis des livres que j'aime, des livres qui sont bien écrits, ou dans lesquels j'aime la langue, des livres dont j'aime la narration et tout ça, ça me porte en fait, parce que ça me rend joyeux. Et quand je suis joyeux, ça me donne envie d'écrire, ça se renforce. Et ça va avoir tendance plutôt à me porter. Donc j'ai mis ma playlist littéraire, les livres que j'ai eu, qui m'ont marqué. Alors j'ai pas osé mettre même playlist musicale parce que j'écoute parfois des trucs tellement nuls que j'ai pas osé. Mais en tout cas, j'ai mis la playlist littéraire. Et puis c'est un peu comme quand je vois du foot à la télé, même si je vois des très bons joueurs qui jouent, et si je vois Zidane ou Messi qui jouent, je sais très bien que je vais jamais jouer comme eux, mais ça me donne quand même envie de prendre un ballon et d'aller taper dedans. Donc c'est pareil quand je lis des bons livres.
Vous avez goûté la confiture de Méréville?
Ah, la confiture de Méréville, ça existe.
Oui, j'ai
parce
vérifié.
Que ma grand-mère, elle en faisait.
Oui, et vous l'avez goûté?
Ah oui, j'adore ça. Ouais. Ah, enfin, oui. Malheureusement, ma grand-mère est morte, donc elle m'en fait plus, mais en fait, c'est de la pastèque à Méréville. C'est une sorte de pastèque, et ça donne une confiture assez sucrée. Un peu translucide, jaune translucide, quoi. Ça, j'adore. J'ai vraiment envie d'en faire, d'ailleurs. J'ai pas trop le temps de faire des confitures, mais j'aimerais bien faire de la confiture de Méréville. Vous avez goûté, vous?
Ben non, mais ce que j'ai vu sur
la recette
fait envie. Hein,
la recette du veau au citron est authentique aussi.
Oui, oui, oui.
Celle de ma tante, ma grande-tante Madeleine. Donc, vous pouvez tester en lisant le livre la recette de veau au citron.
C'est très simple. Hein.
Ah, c'est simple à faire.
Oui, tout à fait. Avant de vous demander un petit peu comment vous écrivez, j'aimerais bien que vous nous disiez deux mots d'un personnage que j'adore aussi. Enfin, ils sont tous, on a tous envie de les suivre. C'est la vieille.
Ah oui.
On ne sait pas, au début, elle est un peu sorcière, elle grommelle, enfin, personne ne la comprend. Il y a son perroquet sur l'épaule, souvent. Perroquet qui n'a pas l'air sympa pour ceux qui sont alentour. Et puis, on la voit qui évolue. Elle commence à chanter des mélopées un petit peu douces, et puis elle se met à parler. Et puis, à la fin, elle va s'interposer dans une querelle. Elle est chamane.
C'est une chamane, ben oui, c'est vrai, on a oublié de la citer tout à l'heure dans les personnages religieux, quoi. Parce qu'elle, c'est une autre forme de mysticisme, c'est un mysticisme un peu peut-être plus ancien, plus les esprits de la nature, les esprits de... Alors là aussi, c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas, moi je suis matérialiste hein, plutôt, mais ça m'intéressait de mettre un personnage comme ça, un peu mystérieux, d'introduire une dimension un peu fantastique dans le livre, et puis d'avoir cette femme qui est une sorcière, ouais, qui est... Enfin, en Europe, on l'aurait appelée sorcière, qui est assez mystérieuse, qui est assez trouble, assez inquiétante. Donc, je me suis bien amusé avec ce personnage, et puis j'ai écouté aussi les histoires d'une amie à moi qui s'appelle Sika Fakambi, qui est béninoise, franco-béninoise, et puis qui est traductrice. Elle a traduit un livre que j'adore aux éditions Zulma, qui s'appelle Notre quelque part, de Ni Eikyu Parks, qui est une sorte d'enquête policière dans la brousse au Ghana. Et c'est une superbe traduction avec beaucoup de. Elle a eu beaucoup de prix d'ailleurs pour cette traduction. Et c'est une enquête policière, mais qui nous amène aussi vers le fantastique. Un peu comme le Horla de Maupassant, quoi. Elle m'a raconté, elle aussi, ouais, c'est quelqu'un d'assez matérialiste et tout, mais que quand elle allait au Bénin, ben, dans sa famille, quand on invoque les esprits, quand on parle des esprits, eh bien. C'est quelque chose qu'il faut pas se moquer et qu'il faut prendre au sérieux, parce que, tout simplement parce qu'il y a des gens qui y croient et ça peut avoir des effets sur eux. Et donc voilà, je me suis inspiré des histoires un peu qui font peur qu'elle m'avait racontées pour mettre en scène ce personnage de chamane.
Comment est-ce que vous avez écrit ce roman un peu chaque jour
Quand je pouvais, parce que moi... Je travaille, hein, je fais pas de l'écriture à temps plein, donc y a des moments où je peux passer des semaines entières sans écrire parce que j'ai pas le temps. Et, en général, ça me manque. Hein. C'est un peu comme faire du sport pour moi, écrire. Quand je fais pas de sport, au bout d'un moment, je boue intérieurement. Et c'est pareil comme pour l'écriture. Et j'ai deux enfants maintenant, donc quand j'avais pas d'enfants, j'écrivais super vite. Et maintenant, avec deux enfants, j'écris moins vite. Je suis plus fatigué. Des fois, le soir, au lieu d'écrire, je m'endors. Le matin, c'est plus difficile d'arriver à faire sonner le réveil. Mais c'est aussi une discipline. Hein. Par exemple, le dernier été où j'écrivais ce livre, ben, je me levais, c'était les vacances, mais je me levais à 7h, 7h30. Et puis j'écrivais jusqu'à 8h30, 9h, dans le silence, la quiétude. Tout le monde dormait, il n'y avait pas de cris d'enfant, tout ça. Et donc j'écrivais à ce moment-là. Et c'est vrai que certains matins, c'était un peu dur de me lever plutôt que de rester dormir. Mais bon, alors je faisais une petite sieste l'après-midi en général, mais une fois qu'on a le livre, on est content. Allez, je vais pas regarder cette série débile, je vais pas dormir, je vais me mettre à... c'est une discipline, c'est un effort sur soi, mais en même temps c'est un plaisir. C'est un peu dur des fois de s'y mettre, quand j'y suis c'est un plaisir. Donc je suis de meilleure composition dans ma journée quand j'ai commencé à écrire ou quand j'ai écrit la veille que si je me laisse aller et que je le fais pas, quoi. Donc voilà, j'écris quand je peux. Quand je fais des déplacements, c'est intéressant parce que du coup je me retrouve des fois dans le train ou sans les enfants, et donc là j'en profite à fond pour écrire. Des fois j'écris dans des cafés, j'écris des fois quand je suis chez mes beaux-parents, quand je suis chez mon père, je me lève, j'écris. Enfin voilà, j'écris vraiment quand je peux, quand j'ai un moment. C'est rarement quand j'ai des journées entières. Bon, après, étant maître de conférence en histoire, j'ai aussi la possibilité d'agencer mon emploi du temps de manière assez libre. Donc il peut arriver que je me dise, voilà, aujourd'hui je ne vais pas faire de recherche, je vais me consacrer à l'écriture.
Vous accepteriez de nous lire
un extrait,
un paragraphe?
Ah bah oui.
S'il vous plaît. Qui dit bien votre manière d'écrire dans ce roman, le premier?
D'accord. Sa voix serait douce s'il le pouvait. Sa voix serait ferme. Sa voix serait terreur. Sa voix serait châtiment et sang. Sa voix serait fouet et fond de cale. Sa voix serait fer. Sa voix serait crainte, car tel est le fondement de l'autorité. Capacité à sévir sans crier gare. Que personne ne sache en s'adressant à lui s'il n'était pas menacé. Que personne ne lui tende la main sans penser, il la tordra peut-être. Il l'écrasera, il la broiera sans la moindre pitié. Si je faillis, afin que même caresse douce de sa part entraîne frisson, peur, soit prélude possible à la violence. On devait frémir en lui tournant le dos d'entendre un ordre néfaste. On devait n'évoquer son nom qu'en se retournant et en voix basse. Il fallait, dans le même temps, que la moindre attention paraisse faveur sucrée, qu'en mot de compliment de sa part soit preuve d'amour. Il devait aussi flatter.
Sylvain Patieu, merci.
Ben merci à vous. Hein.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.